chemin de vie. Bienvenue à tous. Nous espérons que vous avez passé un bon week-end et c'est avec plaisir que nous vous présentons votre rubrique Chemin de vie. Pendant 30 minutes, nous parlons de la Bible, du lundi au vendredi, à cette même heure. Au micro, Heidi.
Ainsi que Jean, et comme à l'accoutumée, Daniel est à la technique. Heidi, notre ami Jacques Yosti nous fait découvrir la Bible depuis un bon moment déjà. De quoi va-t-il nous entretenir aujourd'hui ?
Vendredi dernier, nous avons fait la connaissance du roi Josaphat. Malgré quelques erreurs, qui n'en fait pas, dites-moi, il va nous étonner par sa prise de position pour Dieu. Et Dieu honore une telle attitude.
Notre chroniqueur Jacques Yosti nous en dira plus après ce chant des Enflammés qui a pour titre « Exister ».
À la grandeur de tes rêves, il te plaignit. À la grandeur de tes rêves, il te touche. À la grandeur de tes rêves, dis ce soir toi.
À la grandeur de tes rêves, il répond. À la grandeur de tes rêves, il répond. Il est Dieu tout puissant, il est bon. À la grandeur de tes rêves, il dit un mot, la chose arrive. Il te suffit juste d'y croire. Au-delà de tes espérances, il répond.
Donne-lui ton cœur.
Au final, la vie offre assez peu de certitudes, mais dans le bocal espace-temps qui nous sert de résidence, on peut quand même être sûr d'une chose, c'est que les circonstances et les gens changent constamment. Comme tout est dans un état de flux et de reflux, même si aujourd'hui tout va bien, je ne peux pas préjuger du lendemain, et ce qui est vrai pour les individus l'est également pour les nations. Le royaume de Juda a tout d'abord connu une grande période de prospérité et de paix grâce à son bon roi Josaphat, un homme pieux et fidèle à l'Éternel. Et puis voilà que tout dégringole. Le monarque a commis une faute grave en s'alliant au royaume idolâtre d'Israël Nord pour combattre les Syriens. Les armées israélites ont subi une défaite cuisante sur le champ de bataille. Dieu est fâché contre Josaphat, qui est rentré chez lui tout penaud, où il a été sermonné par le prophète. Mais comme c'est un bon roi, il garde le cap de la fidélité à l'Éternel et se lance dans des réformes judiciaires conformes à la loi de Moïse. Tout va bien, sauf que son royaume a dû être affaibli, ce qui a fait sortir les hyènes de leur trou pour faire un carnage. Je commence à lire le chapitre 20 du second livre des Chroniques en compressant. Par la suite, les Moabites et les Ammonites, renforcés par des Maonites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. On vint prévenir Josaphat en ces termes « Une vaste armée est en train de marcher contre toi d'au-delà de la mer Morte et de la Syrie. » Versets 1 et 2. Cette campagne est un châtiment de Dieu à cause de la faute de Josaphat. Les Moabites et les Ammonites sont des descendants de Lot, le neveu d'Abraham. Les Maonites viennent du royaume d'Édom, fondé par le frère jumeau de Jacob. On va donc s'étriper en famille. Cette confédération armée contourne le sud de la mer Morte et s'apprête à bondir sur Juda pour n'en faire qu'une bouchée. Je continue le texte. Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Ils vinrent de toutes les villes de Juda. Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel en face du nouveau parvis. Il pria ainsi, « Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu ?» habitant dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Tu disposes de force et de puissance. Nul ne peut te résister. Versets 3 à 6. À cette époque, les guerres éclairs n'existent pas et chacun a le temps de se voir venir, de se préparer au combat. Josaphat sait que l'Éternel manifeste sa colère contre lui, mais il adopte la bonne attitude. Il prend peur et, contrairement à ce qu'avait fait son père Asa, il ne cherche pas l'appui d'un roi quelconque, mais crie au secours en invoquant l'Éternel. Je continue. « N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait? Ils s'y sont établis, ils y ont construit un sanctuaire en ton honneur. » Puis ils ont dit, « Si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire, et du fond de notre détresse nous implorerons ton secours. Alors tu écouteras et tu sauveras. » Versets 7 à 9. Le roi rappelle à l'Éternel la promesse qu'il a faite à Abraham, qui devint l'ami de Dieu, un titre extrêmement élogieux qui sera repris par d'autres auteurs des textes sacrés. Josaphat s'appuie aussi sur la prière prononcée par Salomon et agréée par Dieu lors de la dédicace du temple. Je continue le texte. « Eh bien maintenant, voici que les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séir viennent nous attaquer. Quand Israël venait d'Égypte, tu ne lui as pas permis de traverser le pays de ces gens-là, et il a fait un détour, il ne les a pas détruits. Et voilà comment il nous récompense. Ils viennent nous chasser de la propriété que tu nous as attribuée. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer, et nous ne savons que faire, mais nous tournons nos regards vers toi. » Tout Juda, femmes et enfants y compris, se tenaient debout devant l'Éternel. Versets 10 à 13. Maintenant, Josaphat en vient au fait, informant Dieu de ce qui se passe sur terre et de la situation militaire très précaire dans laquelle se trouve le royaume de Juda. Au début de son règne, Josaphat était très puissant et personne n'osait alors lever le petit doigt contre lui. Mais ses alliances malheureuses avec Akab, roi d'Israël Nord, ont compromis la bénédiction de Dieu dont il jouissait. Les peuples coalisés qui sont en marche veulent profiter de la situation de faiblesse de Juda pour l'attaquer, le rayer de la carte et se partager ses dépouilles. Je continue le texte. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel, un lévite, au milieu de l'assemblée. Yahaziel dit, « Soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. » Versets 14 et 15. « Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer » est une exhortation fréquemment adressée aux Israélites. La situation est peut-être critique sur le plan humain et strictement militaire, mais au niveau céleste, c'est le calme plat, car tout est prêt pour le combat. Parce que le roi et les habitants de Juda ont fait confiance à Dieu, c'est lui qui va régler leurs problèmes. La guerre précédente contre les Syriens fut un désastre pour Juda parce que c'est Josaphat qui l'avait décidé et non Dieu. Mais cette bataille qui s'annonce est tout autre car elle est dirigée contre l'Éternel, le vrai roi d'Israël. Les données du problème sont donc entièrement différentes. Je continue. Demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montée de la fleur. Vous les rencontrerez au bout du défilé à l'entrée du désert. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. Versets 16 et 17. La coalition qui attaque Juda a tout d'abord contourné le sud de la mer Morte, puis a remonté la rive ouest jusqu'à l'oasis d'En-Gedi, aujourd'hui réputée pour ses dattes. Les ennemis de Juda campent à environ 30 kilomètres à vol d'oiseau de Jérusalem. La montée des fleurs est un sentier sinueux taillé dans le roc et le seul accès depuis l'oasis jusqu'à la ville de Tekoa, située au sud de la capitale de Juda. Mais l'Éternel va exaucer la prière de Josaphat, ce qui veut dire que le roi a retrouvé sa faveur. La victoire que promet Dieu revêt une forme très particulière parce que, comme c'est lui qui a suscité les envahisseurs, c'est également lui qui va les vaincre. Je continue. Josaphat se prosterna, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. Alors les Lévites, Kehathites et Coréites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte. Versets 18 et 19. Josaphat et les Israélites adoptent une fois encore la bonne attitude d'humilité, de soumission et d'adoration envers l'Éternel. Sur l'ordre du roi et du fond du cœur, les familles de Lévites, dont la fonction est de louer Dieu au moyen de chants sacrés, font retentir leurs instruments vers l'Éternel. Ils rendent ainsi grâce pour la victoire avant même qu'elle ne soit remportée. Demain et par la foi, tout le peuple de Juda va expérimenter la délivrance de l'Éternel. Je continue. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. « Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. » Il s'était concerté avec le peuple et il avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel revêtus d'une parure de sainteté. Ils se mirent en route devant les soldats en armes en chantant « Louez l'Éternel car son amour dura toujours ». Versets 20 et 21. Voilà une façon inhabituelle de faire la guerre. La place des musiciens à la tête de l'armée prouve que Josaphat a pleinement foi en l'Éternel qui va lui-même combattre pour son peuple. Je continue. Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel mit des agents de discorde parmi les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séir qui venaient attaquer Juda de sorte qu'ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants des monts de Séir et les exterminèrent, et quand ils en eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Versets 22 et 23. Aucun détail ne nous est donné, mais on peut aisément spéculer que des hommes placés en embuscade pour surprendre les Israélites ont été frappés d'aveuglement par l'Éternel et ont attaqué par erreur leurs propres alliés, ce qui a semé la méfiance et la discorde dans la confédération. Une fois le coup parti, et dans le show de l'action, les diverses factions se sont entretuées. Cette victoire miraculeuse obtenue alors que Juda est militairement affaibli, contraste fortement avec la défaite précédente subie contre les Syriens. Le roi et le peuple ont eu confiance en l'Éternel qui a entendu leurs cris de détresse et exaucé leurs prières de délivrance. Je continue. Lorsque les Judéens parvinrent au promontoire d'où l'on apercevait le désert, ils regardèrent du côté de leurs ennemis et ils ne virent que des cadavres jonchant le sol. Il n'y avait aucun rescapé. Josaphat et son armée allèrent s'emparer du butin. Ils trouvèrent en abondance toutes sortes de biens, des vêtements et des objets précieux. Ils restèrent 3 jours à piller le butin tant il était abondant. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de la Louange où ils louèrent l'Éternel. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem reprirent joyeusement le chemin de la ville, Josaphat en tête, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils arrivèrent à Jérusalem au son des luttes, des lyres et des trompettes et se rendirent au temple de l'Éternel. Versets 24 à 28. Comme l'Éternel l'avait annoncé par son prophète, les Israélites n'ont pas eu à combattre parce que la coalition ennemie s'est anéantie elle-même. Il ne reste donc plus aux Judéens qu'à ramasser les morceaux et à rendre grâce à l'Éternel dans la vallée de la Louange. Le prophète Joël l'appelle « vallée de Josaphat » ou encore « vallée de la décision ». La plupart de ces soldats morts sont des nomades, ce qui fait que, quand ils partent en campagne, ils y vont avec tous leurs biens à dos de chameau. En cas de défaite, ils sont soit tués, soit faits prisonniers, mais d'une manière ou d'une autre, leur possession revient au vainqueur. Je continue le texte. « Toutes les nations furent frappées de terreur à cause de l'Éternel lorsqu'elles apprirent comment il avait combattu les ennemis d'Israël. » Dès lors, le royaume de Josaphat jouit de la tranquillité et son Dieu lui assura la paix sur toutes ses frontières. Versets 29 et 30. Quand des nations sont en guerre, celles qui restent sur la touche observent et comptent les points. La télé n'existe pas, mais les nouvelles se propageaient vite quand même. Alors, chaque peuple se positionnait par rapport au nouvel échiquier militaire de la région. Comme Josaphat s'est confié en l'Éternel, sa faute est effacée et il est à nouveau béni. Je continue. Ainsi régna Josaphat sur Juda. Il était âgé de 35 ans à son avènement et il régna 25 ans à Jérusalem. Il suivit l'exemple de son père Asa sans en dévier, en faisant ce que l'Éternel considère comme juste. Cependant, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple n'avait toujours pas attaché fermement son cœur au Dieu de ses ancêtres. Versets 31 à 33. Le peuple ne s'est associé que très superficiellement aux réformes religieuses entreprises par Josaphat. Avec l'usure du temps, les Israélites se rendent à nouveau coupables en retournant à leur véritable amour, le syncrétisme religieux qui fait l'amalgame entre l'Éternel et les fausses divinités cananéennes, qu'ils adorent sur des plateformes idolâtres, souvent au sommet des collines, et cela en dépit de la bonne volonté du roi. Je lis plus loin le texte et finis le chapitre 20. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'allia avec Akazia, roi d'Israël, dont la conduite n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Ils se mirent ensemble pour construire des navires pour aller à Tarsis. Alors Éliézer adressa à Josaphat la prophétie suivante. « Parce que tu t'es allié à Akazia, l'Éternel va détruire tes réalisations. » Effectivement, les navires furent brisés avant d'avoir pu atteindre Tarsis. Versets 35 et 37. Il est assez surprenant que Josaphat commet à nouveau la même faute que précédemment en s'alliant avec le roi d'Israël Nord. Comme tout va bien dans son royaume, il commence à oublier Dieu et il devient hautain et gourmand. Il veut de l'or, mais il subit le reproche du prophète de l'Éternel et la sanction divine tombe. Il perd toute sa flotte marchande. Dans sa vie, Josaphat a commis de sérieuses bourdes, dont la gravité est encore accrue parce qu'il les a répétées. Cela dit, Globalement, Josaphat fut quand même un bon roi. Nous arrivons maintenant au chapitre 21 et à partir d'ici, le texte devient un peu complexe car il parle des péchés graves commis par Joram, le fils monstrueux et successeur de Josaphat. Or, tout ce qui vient du mal est compliqué parce que justement, c'est tordu. Si je dis à un aveugle que je tiens un bâton qui est droit comme un i, il lui est facile de se l'imaginer parce qu'il n'y a qu'une seule façon pour un objet d'être rectiligne. Par contre, si je lui dis que mon bâton est tordu, il aura bien du mal à se le représenter car il peut l'être de mille et une façons différentes. De la même manière, ce qui tient du péché semble à première vue plus intéressant que la vertu. Le mal fascine parce qu'il prend bien des formes toutes attirantes. Je commence à lire en compressant. Josaphat rejoignit ses ancêtres décédés et il fut enseveli auprès d'eux dans la cité de David et son fils Joram lui succéda sur le trône. Joram avait plusieurs frères, tous fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père leur avait fait de nombreux cadeaux, de l'argent, de l'or et des objets précieux. De plus, il leur avait confié le gouvernement de plusieurs villes fortifiées en Juda. Mais c'est à Joram qu'il avait conféré la royauté parce qu'il était l'aîné. Versets 1 à 3. Roboam, l'arrière-grand-père de Josaphat, avait agi de même en dispersant ses fils dans le royaume. Cette stratégie permet d'une part d'étendre l'influence du roi sur tout le territoire et d'autre part d'éviter les difficultés qu'avait rencontrées David avec ses fils Absalom et Adonia, qui prétendirent au trône et finirent exécutés. Mais ça ne va pas marcher. Je continue le texte. Dès que Joram fut en possession du royaume de son père et qu'il eut affermi son pouvoir, il fit assassiner tous ses frères ainsi que des dirigeants d'Israël. Joram avait 32 ans à son avènement et il régna 8 ans à Jérusalem. Versets 4 et 5. Joram a régné de l'an 848 à 841 avant Jésus-Christ. Son fratricide est conforme aux habitudes des rois du Proche-Orient et vise évidemment à éliminer tout autre prétendant au trône. La façon d'agir de Joram, qui est marié à Athalie, la fille d'Akab et de Jézabel, est tout à fait conforme à la cruauté de ce couple maudit et idolâtre qui a malgré tout régné 22 ans sur Israël Nord. Les dirigeants que Joram trucide sont ceux qui s'opposent à l'idolâtrie qu'il veut instaurer en Juda. Je continue le texte. Joram suivit l'exemple des rois d'Israël agissant comme la dynastie d'Akab, car il avait épousé une fille d'Akab. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Pourtant, l'Éternel ne voulut pas détruire la dynastie de David à cause de l'alliance qu'il avait conclue avec David, à qui il avait promis que ses descendants régneraient pour toujours. Versets 6 et 7. Josaphat a conçu un fils méchant comme une teigne, mais c'est bien de sa faute, car il n'aurait jamais dû s'allier avec la maison d'Akab. Cette stratégie détestable porte maintenant des fruits pourris. Je continue le texte. Sous le règne de Joram, les Édomites se révoltèrent contre la domination de Juda et se donnèrent un roi. Alors Joram partit et en pleine nuit, il tomba sur les Édomites et les battit. Depuis lors, Édom fut en révolte contre Juda. À la même époque, Libna se révolta également contre la domination de Joram parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Versets 8 à 10. Les deux nations mentionnées étaient tributaires de Josaphat, mais maintenant, et malgré une victoire initiale de Joram, elles réussissent à rejeter le joug israélite qui pesait sur elles parce que le nouveau roi est infidèle à l'Éternel. Josaphat est mort, mais ce n'est pas pour autant que son flirt avec deux monarques véreux d'Israël Nord a été enterré avec lui. Ses magouilles politiques lui ont survécu et son péché a des conséquences outre-tombe désastreuses sur son royaume. Cela fait partie du mystère du mal et celui qui est sage s'en tiendra éloigné autant que possible.
Total Praise vient de nous interpréter « Exauce-moi ».
Si vous souhaitez recevoir gratuitement le texte de ce jour, appelez-nous pendant les heures du bureau au 09 50 31 62 62. 09 50 31 62 62. C'est un appel gratuit depuis une box.
Ou connectez-vous sur notre site internet chemindevie.info avec chemin au pluriel et le tout attaché. Il est maintenant temps de nous quitter. Nous vous disons à très bientôt.